Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vous auriez dû avoir une mise à jour de WordPress 5.0 dans votre blog ce matin. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 290. Un épisode qui est toujours un épisode spécial WordPress, mais normalement vous devriez avoir WordPress 5.0 en mise à jour dans votre interface de gestion. Et au moment où nous enregistrons cet épisode, je dis nous parce que je suis pas tout seul, et ben WordPress 5 n'est toujours pas là. Je suis ce soir avec, ce matin, mais on enregistre le soir, hein, voilà, vous avez toute la petite cuisine des choses. Je suis avec John, qu'on avait déjà eu dans l'épisode 186 spécial WordPress. Comment vas-tu, John?
Ouais, ça va bien, je suis un peu plus décontracté justement. J'ai moins de stress pour la semaine qui arrive.
Oui, d'accord. Et oui, ouais, je comprends. Et nous sommes aussi avec Thomas, qu'on n'a jamais eu dans cet épisode. Alors Thomas, je te propose de te présenter un petit peu.
Oui. Bonjour à tous. Moi, je suis Thomas, front-end développeur. J'ai 35 ans. Je viens du sud de la Belgique. Et puis, je suis tombé dans la marmite du web en 95. Et dans la marmite de WordPress en 2004. Donc voilà, ça fait un bout de temps que je bosse sur WordPress aussi.
Oui, alors on a c'est un épisode international aujourd'hui, parce qu'entre la Belgique, la Suisse et l'Auvergne, hein, qui est pas tout à fait la France, qui est une partie de la France un peu spéciale, on est presque indépendant, vous savez, nous, dans notre état d'esprit. Je disais, oui, donc WordPress 5, on l'attendait, et finalement, il est pas là. Vous savez ce qui s'est passé?
Il s'est passé qu'ils avaient vraiment planifié de le sortir. Ils avaient sorti une release candidate la semaine juste avant. Et puis, il y a quand même beaucoup de bugs encore à fixer. Ils avancent très vite. Hein. Ils ont un rythme de débugage qui est assez impressionnant. Et puis, je crois que d'après ce que disait Thomas, il y a aussi un problème d'agenda qui n'est pas correct, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est maintenant qu'on arrive sur la fin de l'année, c'est les fêtes de fin d'année, c'est Thanksgiving, donc ils vont plus trop avoir le temps. Donc là, ils postposeraient la sortie au 22 janvier 2019.
Quoi. Ouais, ce qui permettrait en plus de passer des fêtes d'année assez tranquillement. Alors je vous le disais moi avant qu'on enregistre, nous à la maison on a un WordPress associé à un WooCommerce pour faire tourner la boutique de thé, hein, chez iClub, et en fait ça nous arrange finalement qu'on n'ait pas des mises à jour dans tous les sens, parce que de toute façon on n'aurait pas pu les faire, et j'imagine que, et on en parlera, hein, pour vous aussi c'était des grands questionnements: faut-il faire la mise à jour de WordPress, faut-il passer à WordPress 5? C'est les thématiques qu'on va aborder ce soir. Avant d'aborder ces thématiques d'ailleurs, une petite question que je vous pose, parce que finalement vous passez votre temps dans WordPress tous les deux, j'imagine. Imagine, est-ce qu'il y a un jour où vous ne vous n'êtes pas connecté à WordPress ces derniers jours, là, cette dernière semaine?
C'est difficile, ouais. Effectivement, c'est tous les jours, et vu comment ça bouge, effectivement, ça n'arrête pas. Il n'y a pas un jour sans, c'est clair.
Ouais, c'est tout pareil de ce côté. C'est vrai que je crois que même pendant les jours de congé, je dois y passer, parce que quand ce n'est pas pour le travail, c'est pour ma femme ou pour moi, donc...
Oui, alors en plus, John, ouais, toi en plus, t'organises un événement autour de WordPress, alors c'est encore pire. D'ailleurs, est-ce que pour vous, c'est encore le meilleur outil pour lancer un blog?
Alors, évidemment, en tout cas, moi, mon avis de mon côté est peut-être biaisé, puisque ça fait un bout de temps que j'y travaille. Maintenant, j'ai essayé pendant si longtemps de m'intéresser à d'autres outils comme Drupal, hein. Il y a Spip, il y a Joomla. Drupal en fait est pas mal, hein. En fait ça dépend des besoins qu'on a. À partir du moment où on fait des sites corporate qui ont besoin de pas mal de langues, de pas mal de choses, des utilisateurs qui soient assez poussés de dire quels sont les privilèges en fonction des pages, ce genre de choses, à ce moment là Drupal pourrait être meilleur que WordPress, mais au niveau de la simplicité, ce genre de choses, sincèrement moi je reste sur du WordPress. Je sais pas ce que t'en penses, John.
Ouais, bah c'est tout pareil ici. C'est vrai que bah, moi, ça fait aussi depuis le début que je travaille avec WordPress. Donc, forcément, j'ai aussi mes habitudes et mes automatismes. Mais je me suis retrouvé pas plus loin qu'il y a une semaine à faire juste une page web pour juste une petite information. On a dû y mettre un formulaire et on commence à se gratter la tête et on ne sait même plus comment mettre un formulaire sur une page normale, quoi. Donc, moi, clairement, je reste convaincu de WordPress, en tout cas. À l'heure actuelle pour faire un blog ou pour faire un site corporate. Je pense que j'ai écrit un truc là-dessus. C'est pour moi WordPress, la force de WordPress, c'est aussi la communauté qui va derrière.
Tout à fait.
On n'est jamais perdu.
Ouais, alors tout à fait. Et j'écoutais à midi, hein, il y avait un live des Webosaur. Oui, c'est les Webosaur. Vous savez, c'est l'émission que fait Corben avec. Alors j'ai perdu le nom de l'autre personne avec qui il le fait. Vous savez, ils font un live une fois par semaine sur des techniques web, etc. Et ils parlaient de WordPress justement parce que aussi ils attendaient WordPress 5. Et c'était aussi la remarque qu'ils faisaient, c'est que finalement la grande force hein, de WordPress par rapport à Drupal, c'est qu'on est quasiment sûr de trouver une aide et quelqu'un
Voilà.
qui a développé quelque chose, quoi.
Exactement, oui, c'est ça, c'est toute la doc, hein. Il y a d'autres CMS. Bon, ici, on parle de CMS plus pour des pages, des articles, ce genre de choses. Sur tout ce qui est e-commerce, WordPress est très bien aussi. Mais si on compare, par exemple, avec un PrestaShop ou un Magento, ben, la doc de PrestaShop, par exemple, c'est une catastrophe. Et Magento, ben, on commence à sortir aussi, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, d'un côté, il y a la communauté, il y a la documentation. Moi, il y a un point qui me semble important aussi, c'est l'exportation des données. Parce que ce sont tous des CMS avec lesquels on est libre. Et puis face à ça, ben, on a les Wix, les WordPress.com, on est censé le faire aussi, ou Jindo, où là, ben, les données doivent rester dans le CMS. On ne sait pas les exporter. Là, on est coincé, quoi. Donc il faut faire gaffe à ça aussi.
Oui, alors avec un petit défaut, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que, et c'est justement, ça nous amène sur WordPress 5, c'est que l'interface de WordPress, elle est quand même, pour des gens qui débutent ou qui n'ont pas l'habitude, elle est un poil compliquée. Moi, j'ai fait travailler mes étudiants la semaine dernière sur, je leur ai donné le choix, en fait, je les ai fait travailler sur Shopify, WordPress, Strickingly ou Wix. Hein, j'aurais laissé le choix des armes pour faire un site. Ils avaient pas beaucoup d'heures, ils avaient 4 heures pour faire un petit site, ou 4-5 heures, ou 6 heures suivant les promos. Et en fait, tous ceux qui ont pris WordPress au départ, à part ceux qui le connaissaient un petit peu, vous voyez, et ben tous, ils sont repartis sur Strickingly ou sur Wix, parce que quelque part, l'interface, pour eux, les a rebutés. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez vous aussi, ou finalement il y a des trucs qui sont plus séduisants à côté, et c'est peut-être ce qui amène WordPress 5 et notamment le Gutenberg?
Oui, complètement. C'est justement aussi pour ça qu'ils vont dans ce sens-là avec WordPress 5. Et puis après, ben, nous, je pense que Thomas est comme moi, on a cet aspect, nous, où on va mettre WordPress de notre côté pour faire ce qu'on veut. On va lui ajouter les plugins qu'il faut pour que l'admin devienne user-friendly. Mais c'est vrai que ça demande de la technique. Pour une personne qui débarque dedans, il va être plus perdu. Et puis, je reste convaincu qu'un Wix ou un Squarespace, c'est facile à mettre en place, mais il faut du goût, quoi. Au final, c'est vite fait de faire quelque chose de très, très moche et puis de pas user-friendly non plus.
Complètement d'accord.
Oui, alors moi j'avais une petite blague et c'est pour, je disais que j'aimais pas Wix parce qu'un jour j'ai un étudiant ou un client, je sais plus, qui a voulu faire tomber de la neige sur la page sur son site, et le site est passé en flash ou je sais pas quoi à ce moment-là, et donc il y a plus du tout de version mobile, mais il n'était pas du tout été prévenu, c'est juste parce qu'il y avait trois flocons de neige qui tombaient, vous voyez. Mais il trouvait ça beau. Voilà, c'était moi c'est vrai que Wix et en plus je suis très très je le dis hein, je suis très bête hein, je suis un peu comme une poule devant un couteau. Je sais plus du tout utiliser des trucs comme Wix et compagnie, tellement j'ai l'habitude de WordPress. À force d'avoir tant de WordPress autour de moi, j'ai des réflexes en fait de WordPress user, quoi, tout simplement. Même si je pense hein, qu'on a chacun après nos petits. Vous avez vous des plugins que vous adorez? Alors je sais que John en avait parlé dans l'épisode qu'on avait fait tous les deux. Hein, t'as mis ta liste de plugins intéressants. Thomas, toi, est-ce que t'as un plugin, tu sais, dont tu pourrais pas te passer quand tu installes un WordPress, le premier truc que tu mets?
Forcément, je pense que c'est un peu comme John, hein, c'est le fameux ACF. Maintenant, l'autre que j'installe systématiquement, c'est aussi un outil de migration de données qui s'appelle WP Migrate Pro, qui permet automatiquement de sauvegarder mes données et puis de réimporter en cas de problème ou de réimporter sur un serveur temporaire pour montrer au client, quoi. Ça, c'est vraiment les deux que j'installe d'office.
Alors, tu as parlé d'ACF. Alors, pour ceux qui le connaissent pas, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi sert ce plugin et pourquoi vous l'aimez tant?
Alors, c'est un plugin qui sert à créer ce qu'on appelle dans WordPress des custom fields. Donc, WordPress vient de base avec simplement un éditeur, pour l'instant, tout basique, où on a un titre et puis un gros bloc où on doit mettre notre contenu dedans. ACF nous permet cette flexibilité de rajouter des custom fields, de rajouter des champs. Pour que dans mon cas principalement, pour que mes clients aient quelque chose de facile à remplir, ils n'ont qu'à suivre de haut en bas, remplir les blocs que moi je leur ai préparés, que ensuite je récupère dans le thème et puis que je vais afficher là où j'ai envie.
Voilà, en fait, ouais, c'est vraiment un plugin qui donne une latitude, une souplesse assez énorme et en fait permet d'être aussi puissant que Gutenberg avant l'heure, parce qu'il a notamment une fonctionnalité qui s'appelle les flexibles, qui en fait sont déjà des blocs que l'on peut agencer les uns en dessous des autres et puis les réordonner. Et donc c'est vraiment Gutenberg avant l'heure, et ça chez ACF ça existe depuis quelques années, quoi.
Très bien.
Et puis,
Alors, oui,
bon,
John,
juste pour
vas-y.
finir avec ACF, ce qui est assez fou, c'est que c'est un plugin qui est développé par une personne.
Ouais.
Et puis, la version pro qu'on utilise coûte 99 $ à vie. Donc, c'est une fois 99 $. Et puis là, en plus, avec les fêtes de fin d'année, il y a facilement des 30% de rabais. Donc, c'est vraiment pas un gros investissement pour un gain de pouvoir qui est assez fou.
Oui, 100 $ pour la version pro, et il y a une licence personnelle déjà à 25 $. Mais là, il y a avec des fonctionnalités en moins, mais il y a déjà moyen d'avoir des choses.
Très bien. Alors, ça nous permet justement de découvrir ce fameux WordPress 5 qui arrive, hein. Donc, on l'a dit, une date qui est repoussée. On parle du 22 janvier maintenant, à peu près, hein, dans cette zone-là. Ce qui laisse le temps de faire beaucoup, beaucoup d'évolutions, mais on sait quand même que finalement le gros changement, hein, alors on va en parler rapidement parce que sur l'interface, je sais pas si vous avez vu beaucoup de changements, vous, dans WordPress 5 par rapport à celui qu'on connaît actuellement. Hors Gutenberg, hein, hors l'éditeur dont on reparlera.
Moi, quasiment pas.
Non, non, j'ai pas notifié quelque chose
Ouais.
d'important.
Pas vraiment
J'ai
sur.
même... Non, moi j'ai même dû changer, enfin à chercher plutôt pour me dire, bah, tiens, qu'est-ce qui a vraiment changé, un peu pour voir un peu ici pour le podcast, mais franchement, il y a pas grand-chose, c'est vraiment quelques trucs sous le capot, mais c'est très restreint.
Ouais. Moi, j'espère quand même que, et j'espérais, mais je l'ai pas vu, qu'il fasse un petit peu de ménage. Vous savez, dans tous ces trucs qu'il rajoute dans les menus. Les menus deviennent super compliqués parce que chaque plugin rajoute son menu, et puis il rajoute aussi des messages en pagaille qui commencent à s'afficher un peu dans tous les sens. J'espérais qu'il gère ça d'une manière un petit peu plus intelligente ou qu'il nous laisse le gérer. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu grand-chose là-dessus, donc mon WordPress semble toujours aussi compliqué avec ça. Bon, on verra ce qu'il en est au fur et à mesure des évolutions. Ensuite, sur la partie technique, hein, il y a quelques changements, notamment, alors sur PHP, on est au support du PHP 7.3, hein, pour ceux qui s'inquiètent sur les versions de serveur. Vous avez marqué quoi dans les notes d'émission? JavaScript et API REST.
Ouais, donc l'API REST, c'est l'API en fait qui permet de se servir de WordPress, enfin en dehors de WordPress. Donc par exemple, si vous avez une application mobile, ben, vous pouvez venir y charger ben, des contenus de votre WordPress ben, grâce à l'API REST. C'est elle qui va faire le lien entre les deux. Et donc ben, là, il y a encore une progression. Hein, ils étaient encore sur certaines choses qui n'étaient pas totalement terminées et là, ben, qui vont être finalisées entièrement. Et alors, l'histoire du support JavaScript au niveau des langues, ben c'est maintenant avec Gutenberg ben qui nécessite de faire plus de JavaScript. Ben il y avait besoin notamment de gérer les textes dans différentes langues directement en JavaScript, ce qui n'était pas le cas avant. Ben donc voilà, ça on aura l'occasion d'en reparler.
Ok. Un autre changement important, mais ça c'est le changement de version majeur, et puis c'est un petit peu l'habitude de WordPress aussi, c'est de sortir un nouveau thème. 2019, si je me trompe pas, hein, qui sera la. Alors moi, dans les démos que j'ai vues, les tests, je trouve plutôt joli. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, moi, il est chouette. Bon, moi, j'ai ma version de test qui tourne avec. Je l'aime bien. J'ai surtout été, moi, ouvrir justement le capot, regarder ce qu'il y avait dedans, repiquer les parties qui m'intéressaient, que ce soit dans le fichier fonction ou dans les loops, pour l'intégrer à mon thème de développement. Donc, je suis assez content que ça bouge de ce côté-là. Ouais.
Ouais, c'est vrai que souvent, quand il y a un thème qui sort, bah, le premier truc qu'on va faire, c'est repérer les nouvelles choses, les nouvelles façons de faire, pour s'assurer que, bah, justement, notre thème de développement soit à jour aussi, quoi.
Ouais. Alors justement, c'est une bonne transition. Ceux qui utilisent WordPress, ne soyez pas surpris. Vous devriez voir normalement si vos thèmes sont suivis. Et ben, pas mal de mises à jour, hein, des thèmes qui devraient arriver, notamment parce qu'en fait, il faut que les développeurs se mettent un petit peu à la page, bah, des nouveautés de WordPress 5. Alors moi, je donne un exemple, hein, j'utilise les frameworks Genesis, qui est un framework payant sur lequel j'ai des thèmes enfants. Et là, ils ont annoncé la compatibilité. Alors ça fait longtemps qu'on sait qu'ils seront compatibles avec l'éditeur Gutenberg, et ils ont annoncé là la mise à jour des thèmes enfants, en fait, pour dire que tout ce qu'on voit finalement dans l'interface d'administration sera visible publiquement sur le site, hein. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va voir là dans les, et on, peut-être vous l'avez déjà vu vous de votre côté, des séries de thèmes spécialement optimisés pour Gutenberg qui vraiment vont afficher un logo nous sommes compatibles Gutenberg, ne vous en faites pas, achetez-nous tranquillement. Je sais pas si vous avez déjà vu ça.
Alors moi, j'ai pas encore vu ce branding spécial. Par contre, sur le repository de WordPress où on a déjà les thèmes gratuits qui sont dispo, on a déjà beaucoup de thèmes qui sont compatibles Gutenberg. Ils n'en ont pas fait encore une rubrique. J'ai regardé avant s'ils avaient fait une rubrique spéciale dans les filtres. Il n'y a pas une rubrique spéciale dans les filtres pour trier par Gutenberg. Par contre, avec le mot-clé Gutenberg, on arrive déjà à une liste de thèmes qui est assez impressionnante, qui est compatible.
Ça marche.
Moi, mon côté, j'ai pas vraiment regardé, donc ouais, je peux pas en dire plus.
Non, mais après on verra. Alors ce qui est même très marrant chez Genesis, c'est Studio Press qui développe. Ils ont envoyé une newsletter aujourd'hui pour dire c'est bon, faites la mise à jour de WordPress 5, on est compatible. Et ils ont envoyé un deuxième newsletter en disant oups, ben il est pas là. donc tout le monde l'attend finalement. Bon, si on veut le tester, ce WordPress 5, finalement, comment on peut faire, parce que vous l'avez testé de votre côté, comment vous avez fait pour le tester?
Alors moi, la première fois que je l'ai testé, c'était il y a déjà plusieurs mois. Mais ce qui se passe, c'est quand on installait la toute dernière version de WordPress stable actuelle, donc qui était la 4.9.8, on pouvait en fait normalement installer un petit plugin, hein, qui s'appelle WordPress Beta Tester, et en installant ce petit plugin qu'on va vous allez chercher comme n'importe quel plugin, automatiquement il va vous chercher les nouvelles versions. Comme à l'époque les WordPress 5 étaient encore en version bêta, alors à ce moment-là il ne la trouvait pas, et donc là il faut passer par directement la version GitHub de WordPress, hein, il y a une adresse spécifique où on peut aller chercher la nouvelle version. Maintenant, ici, si vous allez simplement sur wordpress.org et que vous allez dans la partie news, vous prenez le dernier article et en fait, ils vous mettent un lien direct pour télécharger la version 5 en version RC, donc la Release Candidate, qui est une version presque finale de WordPress. Logiquement, il y aura encore une Release Candidate finale début d'année prochaine et puis la version qui sortira, quoi.
Alors, on mettra tous les liens dans les notes de l'émission, hein, bien sûr, pour qu'on puisse retrouver tous ces plugins, enfin plugins ou moyens de le tester. Alors, bien sûr, pour l'instant, on met pas ça sur un site en production, hein, on met ça tranquillement sur un site de test, ou alors vraiment sur un petit site de production qui est pas vital pour nous. Hein, on en a tous un qui traîne comme ça, hein, soyons clairs. Mais effectivement, il y a encore, même s'ils vont très vite sur les mises à jour, il y a encore des choses à corriger. Moi, il y avait des trucs qui m'énervaient d'ailleurs. Gutenberg est en développement. J'utilise depuis des mois. Hein. Ça fait un bout de temps que je suis passé dessus. Et c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient... il y avait des fonctions qui n'existaient tout simplement pas dedans, hein, qu'on pouvait pas retrouver, qui existaient dans WordPress, et qu'on n'arrivait pas à retrouver, et qui petit à petit apparaissent. Donc si vraiment c'est votre site... un site de production, attendez un petit peu. Dernier aspect sur ces mises à jour de WordPress quand même, parce que c'est assez intéressant. ils sont en train de changer le d'une manière ou d'une autre. Alors moi j'ai pas trop suivi, mais si l'un de vous deux a peut-être bien suivi ça, leur rythme de mise à jour et notamment le ces histoires de dates de sortie qui vont un petit peu évoluer différemment maintenant. Hein.
Je te laisse.
Moi, ce que j'ai entendu justement cette interview de Matt Mullenweg qui disait que suite à la sortie de WordPress 5, ils allaient passer à des mises à jour deux fois par mois du core de WordPress pour pouvoir au plus vite, je dirais, combler quand ils ont des bugs à remplir. Après, je ne sais pas si ça va rester comme ça ou si c'est juste une période de transition. Après la mise à jour, le temps d'avoir quelque chose de vraiment très stable.
D'accord. Bon, on verra. De toute façon, c'est eux qui sont les maîtres du code, hein, j'ai envie de dire. Donc, nous, on peut contribuer, mais finalement, on suit un petit peu ce qu'ils font. Je vous propose maintenant qu'on fasse un petit focus, enfin un gros focus sur Gutenberg, parce que finalement, on l'a dit, hein, la seule vraie, enfin pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais la vraie grosse nouveauté, c'est ce nouvel éditeur qui arrive, qui révolutionne un petit peu, hein, la manière de rentrer un article, qui déstabilise beaucoup les anciens utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez commencé à sonder vos clients, c'est une discussion qu'on a eue sur Twitter. Est-ce que déjà vous dites bon, c'est un éditeur sur le principe qui vous intéresse, ou vous dites bon, ça va être compliqué d'y passer?
Alors pour ma part, je suis assez enthousiaste, hein, je dois dire. Il y a une grosse polémique. Moi, j'aime beaucoup le concept. Après, ben voilà, une fois que tous les petits détails seront réglés, je pense qu'on va vraiment gagner en puissance, en facilité d'édition. Et moi, je suis assez enthousiaste pour cet éditeur. Après, mes clients, c'est vrai que ben moi, j'en ai. Au final, j'ai fait un peu le tour aujourd'hui justement. Je travaille beaucoup avec des PME et des choses comme ça, et au final, j'en ai pas beaucoup qui publient régulièrement. Donc eux, c'est sûr que je vais les passer à la version supérieure, mais je vais leur désactiver le Gutenberg pour pas qu'ils soient perdus, parce qu'ils publient jamais rien. Donc s'ils reviennent dans le site une fois de temps en temps, ils vont pas retrouver leur petit.
Oui, bah, pareil de mon côté, hein, hyper enthousiaste avec Gutenberg. Comme je disais, en fait, bah, nous, ce qu'on fait par rapport à nos clients, bah, c'est justement de fonctionner avec une même logique, hein, donc cette logique de bloc qu'actuellement on fait avec ACF, hein, et ICF, on va en reparler, ben, maintenant aussi compatible avec Gutenberg. Mais donc, ben, ça permet à nos clients, ben, d'avoir toute une certaine souplesse. Et un peu à la manière de John, ben, on travaille beaucoup avec des PME, et eux, ce qu'ils cherchent, ben, c'est de la simplicité. Donc, ben, ici, les quelques tests que j'ai pu aussi faire avec Gutenberg, c'est que de toute façon, on peut désactiver ben, tous les blocs qui nous intéressent pas. Donc déjà, on peut nettoyer largement, bah, tous les blocs qu'on estimerait inutiles pour nos clients.
Ouais. Alors effectivement, on n'en a pas parlé. Donc on va rappeler le principe de Gutenberg, hein, qui, on va dire, ça remplace l'éditeur classique. Alors pour ceux qui utilisent WordPress, vous le savez, quand vous rentrez un article, vous mettiez votre titre, et ensuite vous aviez un grand champ de texte, on va dire qui était WYSIWYG, hein, dans l'esprit, même s'il n'était pas tout à fait sur certaines choses, vous aviez juste un grand bloc de texte. Maintenant, Gutenberg le remplace avec finalement des zones dans lesquelles vous allez pouvoir ajouter des blocs séparés. Ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être des formulaires, des cartes, des choses comme ça. Hein. On va en parler parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire. Ce qui est déstabilisant, c'est finalement à chaque fois qu'on fait un retour à la ligne, un nouveau paragraphe, ça crée un nouveau bloc. Hein. Je sais pas si vous avez vu s'il y a moyen de changer un petit peu ce fonctionnement là, parce que moi ça m'a déstabilisé sur l'instant. Et l'autre jour il y a une discussion dans le groupe du club des créateurs de contenu où justement ça déstabilisait un petit peu cet aspect là, de dire ben, finalement ça crée plein de blocs, et si on veut déplacer plusieurs blocs d'un coup, c'est peut-être pas si évident que ça, hein, sur la manipulation. Je sais pas si comment vous le ressentez vous.
Alors moi, c'est vrai que j'ai pas eu, enfin, je me suis pas penché sur la question de déplacer plusieurs blocs en même temps. C'est pas faux, c'est intéressant comme c'est vrai que ça surprend, cette création de blocs, de multiples blocs. Mais après, ben, ça donne aussi vraiment de la flexibilité que je trouve agréable. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que c'est toute une façon qu'il faut apprendre. Il faut vraiment apprendre à écrire même un simple billet de blog. Les premières fois, ça va nous prendre du temps, mais je pense que ça va être une courbe d'apprentissage assez rapide et puis qu'on va se trouver après dans quelque chose de vraiment agréable.
Ouais, complètement. En fait, c'est vrai que tu parlais du paragraphe, c'est vrai que c'est assez perturbant. Maintenant, on a toujours le bloc classique, hein. Si on fait une recherche sur le bloc classique, ben là, on sait à nouveau rajouter à la fois des titres et du contenu. Donc voilà, on garde quand même une certaine logique qui était là déjà avant, mais c'est vrai que le paragraphe, faire enter et passer au bloc suivant, c'est assez perturbant, ouais, ça c'est clair.
Oui, alors une précision pour ceux qui passeront à Gutenberg, c'est que vos anciens articles ne sont pas pour l'instant en Gutenberg encore, hein, ils ont l'éditeur classique finalement, hein, on a le champ classique, mais par contre vous pouvez les convertir en bloc, et dans ce cas-là vous regagnez tous les aspects de bloc que vous pouvez avoir. Moi je le fais régulièrement parce que j'ai des mises à jour en fait dans mes articles, et donc je les convertis au fur et à mesure comme ça, et il m'a jamais perdu le moindre contenu, il arrive à reconstituer un petit peu tous les blocs, et après je peux les réorganiser assez facilement. On reparlera un petit peu de tous les blocs qu'on peut mettre, mais est-ce que finalement dans Gutenberg il y a des fonctions que vous appréciez particulièrement, ou des blocs que vous avez découverts que vous appréciez particulièrement?
Bah moi, j'ai joué ce matin avec les images. Et c'est vrai que rien que ça, c'est déjà assez fun à faire. Après, j'ai mis un petit moment et je ne trouvais pas la fonctionnalité. Ça m'a rendu un peu dingue parce que j'ai mis une image et puis elle restait à la largeur du contenu du container. Et moi, je voulais qu'elle prenne toute la largeur. Et j'ai mis un petit moment à comprendre que ce n'était pas dans la sidebar où on a toutes les infos du bloc, où on peut gérer les choses. Mais que c'était vraiment, quand on fait un over sur le bloc, là, il va nous proposer, si on la veut en petit, en grand, en très grand ou en très très grand. Mais après, en un clic, on a vraiment ce bloc qui prend la largeur de la page et qui sort du contenu. Ce qui est un truc qu'on s'embête à faire en CSS vraiment, des fois, essayer de faire sortir cette image comme ça du contenu pour qu'on ait une espèce de séparation qui prend toute la largeur.
Moi, de mon côté, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est au final l'intégration. C'est le fait d'avoir ces blocs dans la colonne de gauche et directement dans la colonne de droite les options qui sont inhérentes à ce bloc. Donc, par exemple, pour une galerie, on va avoir le nombre d'images par ligne qu'on veut afficher côté visiteur et ce genre de choses. Et puis, il y a aussi une petite icône, c'est assez pratique. On parlait justement du nombre de blocs qui étaient affichés sur une même page. Il y a une petite icône de navigation qui permet justement d'avoir un résumé de toute la page et d'aller directement dans un des blocs de la page. Je trouvais ça assez malin. Ce qu'on ne retrouvait pas, par exemple, chez ACF, qui fait déjà beaucoup de choses assez sympas de ce côté-là.
Ouais, effectivement, il y a des petites fonctions qui sont assez pratiques. On a beaucoup dit, et certains le disent, que l'éditeur se rapprochait un petit peu de ce que Medium faisait en édition de contenu, mais en fait, ils vont beaucoup, beaucoup plus loin parce que on peut éditer des pages qui sont très complexes en mise en forme. Alors moi j'ai un exemple type, c'est pour ceux qui veulent faire un encadré, juste un petit encadré, un texte encadré ou avec un fond de couleur. Avant, bon, avec ACF, vous aviez sûrement vous des astuces pour le faire. Dans l'éditeur classique, quand quelqu'un vous demandait de faire ce truc-là, c'était compliqué. Maintenant, finalement, avec ces réglages dans la barre de droite, vous êtes capable de mettre un encadré, mettre un fond de couleur, mettre des lettrines, changer certains alignements de texte, etc. Très facilement et en quelques secondes. Donc, on a vraiment un éditeur qui permet de composer des pages même assez complexes. Je vous renvoie d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet pour montrer comment on pouvait faire une landing page pour les réseaux sociaux. Même en intégrant d'ailleurs des choses qu'on pouvait pas intégrer avant sans plugin, tout simplement, comme la liste des derniers articles ou des choses comme ça. Donc vraiment, on a des fonctions qui sont assez intéressantes. Mais est-ce que y a quand même des trucs qui vous énervent dans ce Gutenberg? Parce que finalement, vous êtes assez enthousiaste, mais il y a sûrement des trucs qui vous énervent dedans.
Il y en a plein. c'est tout le temps des petites choses qui s'empilent, je dirais. C'est vraiment. Et puis, il n'y a qu'à l'usure qu'on se rend compte que tout d'un coup, on est bloqué sur un détail, sur un truc qu'on voulait mettre, mais puis ça ne va pas comme on veut. Et puis, il y a aussi. Ben, ils ont beaucoup de choses qui sont un peu masquées, qui apparaissent qu'en hover ou qui. qui, bah, justement, cette espèce de fil d'Ariane des blocs, il est génial, mais moi je l'ai vu, je crois, pour la première fois hier matin. Donc, il y a plein de trucs que je découvre aussi au fur et à mesure qui me débloquent, bah, comme ces histoires d'images que je ne comprenais pas comment mettre en largeur. J'ai dû aller fouiller sur le site de démo pour voir comment ils avaient fait. Mais ouais, pour moi, c'est plus des petites choses comme ça qui m'embêtent que j'ai rencontré vraiment un gros problème qui m'a bloqué.
Oui, moi de mon côté, je trouve qu'en fait, c'est au niveau de l'ergonomie, il y a plusieurs choses qui posent. Enfin, moi, parfois, je m'en mêle les pinceaux. Hein. Il y a l'icône d'ajout des blocs, mais il suffit d'être un petit peu trop à côté et on se retrouve à survoler le menu d'administration qui est juste à côté. Et puis, du coup, on ne sait plus recliquer sur ajouter le bloc. C'est toutes des petites choses comme ça. Hein. C'est les boutons, soit qui sont mal placés ou qui disparaissent, on ne comprend pas pourquoi. On cherche les options. Pour l'instant, c'est vrai que c'est beaucoup de temps à chercher les options et faire ce qu'on veut faire. Et c'est là que je me dis qu'il y a un souci. Si nous, déjà, on a un peu de mal à trouver nos marques, bon, est-ce que c'est dû au passé de longue date qu'on a sur WordPress à voir? Mais j'ai quand même l'impression que ben, pour ceux qui auront moins l'habitude, ben, ça va être d'autant plus compliqué, quoi.
Et puis,
Et puis,
oui, vas-y.
non, puis ben, je parle même pas de ceux qui envisageaient d'écrire leurs articles depuis le téléphone.
Alors moi, pour tout dire, je n'ai pas testé voir ce qui se passait. Je pense que de toute façon, on a l'éditeur très classique.
Ouais, je crois qu'ils annoncent autour de février-mars 2019 une compatibilité sur les mobiles de Gutenberg.
Parce que je vois même pas en fait comment Gutenberg pourrait fonctionner sur un iPhone. Moi qui des fois écris sur mon iPhone, enfin des fois, en fait non, je publie plein de choses depuis l'iPhone sur mon blog, donc je fais très régulièrement. C'est vrai que je vois pas comment les blocs on pourrait les insérer de ce type-là. Et de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est que ça s'enregistre comme un article classique avec l'ancien éditeur classique, etc. Donc ça remonte comme un contenu, mais c'est un petit peu aussi, je sais pas si vous le faites. Moi, je publie des choses avec des applications de type Marcedit, hein, qui utilise XML RPC. Là aussi, les articles en fait, eh bien, il n'y a pas de bloc, donc ils arrivent en brut dans WordPress, et ensuite c'est l'éditeur qui veut les afficher en contenu. Je sais pas, classique à l'ancienne, hein, donc pour l'instant on n'est pas bloqué là-dessus. Par contre, c'est vrai que celui qui espérait utiliser Gutenberg sur son iPhone, pour l'instant il sera déçu. Donc il y a deux interfaces de gestion pour l'instant effectivement à gérer là-dessus. C'est vrai que c'est un petit détail. Vous voyez d'autres trucs qui vous énervent ou finalement ça va s'améliorer au fur et à mesure de toute façon?
Ouais, ça va s'améliorer. Moi, c'est la petite chose. Bon, voilà, ici pour les performances, par exemple, on a les galeries. Le bloc est super, hein, niveau design, très très chouette. Mais actuellement, et ça, je l'attends depuis le début, c'est le fait de pouvoir choisir les tailles d'image. Ça, c'est un truc moi qui me. Enfin, je comprends même pas comment les développeurs n'ont pas pu y penser, parce que ça veut dire que le gars, il charge ses images avec le réflexe, les photos du réflexe, le gros appareil. Et les photos, elles prennent 10 mégas et ça s'affiche sur le site en 10 mégas. Donc, ça va, le site, il va plus charger. Enfin, c'est incompréhensible. Donc, voilà, c'est beaucoup de petites choses comme ça, soit des bugs d'ergonomie, soit des bugs techniques, visuels. Mais voilà, en soi, je pense qu'on est tous convaincus de l'intérêt et de la puissance que ça va être derrière, quoi.
Ouais, et tu sais, sur ce problème de mise en ligne des tailles d'image, je me demande, pour moi, c'est même une faiblesse de WordPress au sens large de la gestion des médias, en fait. Effectivement, moi, c'est un réflexe parce que ça fait 22 ans que je fais du web, donc optimiser les images, j'ai commencé par ça avant de faire autre chose. Mais moi, il me vient jamais à l'idée de mettre une image directement depuis l'appareil photo. Par contre, mes étudiants qui ont 20 ans, eux le font. J'ai un blog, je gère un blog avec des étudiants en journalisme, et un jour il était super lent, et puis il hébergeait sur mes serveurs. Je disais, mais comment ça se fait que mon serveur est si lent? Et en fait, il m'avait mis trois images ou quatre images, il y en avait un qui faisait chacune 6 mégas directement. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il me dit, bah c'est passé sans problème. Et en fait, même avec l'éditeur à l'ancienne, etc., il arrivait à insérer des images qui étaient en très grande taille. Alors après, s'affichait à la taille normale grâce au responsive. Mais finalement, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que WordPress, on n'a pas un optimiseur d'image qui est directement intégré? Alors ça existe en plugin. Jetpack le fait en partie avec son, je sais plus comment il l'appelle, la Photonis, ou je sais pas comment il l'appelle. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plus même le moteur de WordPress qui, sur la gestion des médias, est pas très très pas très affûté, je trouve, sur certains aspects. Mais effectivement, je comprends ton souci parce qu'on peut avoir des pages qui deviennent très très lourdes, juste par méconnaissance finalement, hein, pour un client, lui expliquer qu'il faut retailler ses images d'abord dans
Voilà.
un éditeur, c'est peut-être pas si évident que ça, hein.
Non, non, c'est ça. Et clairement, il faut. Moi, le but, c'est qu'il est le moins soucié de ce genre de choses. Le but, c'est qu'il cherche les images, son contenu, et il n'a rien d'autre à faire. Et donc, ben là, pour moi, oui, c'est un vrai problème. Ouais.
Alors, il y a aussi un cas particulier, c'est qu'il peut y avoir des Gutenberg quand même est un gros changement hein, pour les thèmes. Moi, j'ai vu un cas, j'ai utilisé des fonds, des alors je sais pas si comment, je sais plus comment il l'appelle. Vous savez, c'est le bloc qui a une image et le texte à côté. Je crois que c'est bloc
Ouais,
plus image.
un truc comme ça, ouais,
Ouais,
texte
voyez,
image.
texte image. Alors là, ça vient sûrement des thèmes que j'utilise moi. En fait, il s'affiche pas très bien hein, sur mes sites. Et en plus, il est pas responsive dans mes sites. Mais là, je pense que ça vient plutôt en fait pour l'instant des thèmes qui sont pas du tout à jour. Mais en fait, c'est beau quand on est dans l'interface d'admin, et c'est très très moche quand on est sur le site, tout simplement parce que je pense qu'il manque des styles qui sont pas répliqués. Et c'est pas parce qu'on a mis Gutenberg dans l'interface d'administration que finalement les styles se répliquent dans la partie publique. Hein. C'est ce qui peut un peu surprendre aussi les gens. Je pense que ceux qui ont des vieux thèmes vont être très surpris d'ailleurs d'avoir des choses qui sont belles d'un côté et moches de l'autre. Ça sera un petit peu, je trouve, la surprise pour certains sur cet aspect-là. Il y a un autre truc aussi dont on pourrait parler, c'est que finalement, il y a peut-être, vous avez peut-être vu vous des plugins ou des choses qui sont pas compatibles avec Gutenberg. Vous avez peut-être vu des exemples de gens qui vous disaient, bah, nous, il n'y a pas de mise à jour qui vont se faire ou vous n'arrivez pas à utiliser certains plugins peut-être.
Alors, pour ma part, j'ai encore pas de mes plugins favoris qui ont annoncé qu'ils ne seraient pas compatibles. Après, il y en a qui ont rien annoncé. Donc, il y a des surprises à venir. Et puis, c'est vrai que, bah, voilà, quelque part, ça va aussi être l'occasion de peut-être faire un peu le ménage dans les plugins qu'on utilise. Mais c'est vrai que pour moi, c'est aussi un futur souci. Après, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il y a aussi plein de plugins qui vont tirer parti de Gutenberg à fond, et on va vraiment trouver une flexibilité qui va être chouette.
Ouais.
Ouais, je pense. Par moi, ici, l'exemple, c'est que j'avais reçu un mail ici de WPML cette semaine, donc qui est le plugin pour traduire WordPress en plusieurs langues. Eux, ils disent, on va être compatible Gutenberg, mais on attend que la version 5 sorte d'abord. Et donc, on sera compatible un peu après la mise en ligne de la version 5, et puis on sera bon. Mais voilà, ce qu'ils disent aussi beaucoup, c'est que pour l'instant, ici, le mois de novembre, ça a été de la folie au niveau des mises à jour de Gutenberg. Donc, eux n'arrivent même plus à suivre. Hein. Je veux dire, ici, les mises à jour, ça va tellement bon train que ici, la version 4.5 qui était sortie la semaine passée de Gutenberg avait justement cassé ACF, et donc ACF avait dit attention, attendez. Donc voilà, ça va tellement vite que les développeurs de plugins en sont perdus de leur côté, quoi.
Ouais. Et puis alors je sais pas si vous regardez les changelogs de Gutenberg, mais c'est une liste qui est juste hallucinante à chaque fois. Moi, je l'ai repéré pour un truc parce qu'il y avait un truc qui m'énervait dans Gutenberg avant, c'est qu'on pouvait pas modifier le permalien de l'article de WordPress. Il avait fait disparaître à une époque, il suffisait de cliquer sur le titre, il apparaissait. C'est à nouveau le cas, hein, voilà. Pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Cette fonctionnalité avait disparu pendant plusieurs semaines, hein, pour une raison inexplicable. Ils avaient dû la casser, l'oublier, ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils avaient foutu. Donc, on était obligé de faire des bascules hein, des éditeurs ou en édition rapide. Et ça, c'est des choses qu'on avait vues. Et puis moi, j'avais vu, c'est ce que j'ai mis dans les notes de l'émission sur. J'ai un plugin de cuisine sur un de mes blogs qui s'appelait Cookbook et qui annonçait son arrêt hein, carrément. Alors c'est un plugin qui est payant. Il le faisait payer 59 € puis un abonnement chaque année. Et cette année, ils ont annoncé l'arrêt en disant que redévelopper pour Gutenberg leur demande trop de travail par rapport, enfin trop d'investissement par rapport aux coûts, etc. Alors que d'autres plugins sont passés sans aucun problème. Je le dis, alors ce qui est logique notamment, c'est que Automattic qui développe WordPress a mis à jour Jetpack, hein, l'extension presque obligatoire hein, pour certains. Et alors Jetpack arrive avec des fonctionnalités qui sont intéressantes. Notamment, on peut ajouter une carte Google Maps directement dans en bloc dans Gutenberg. Il y a un petit une petite carte qui apparaît. Et j'ai vu. Alors moi, j'utilise pas la version premium de Jetpack, donc je sais pas si vous l'avez testé vous de votre côté. On va maintenant pouvoir mettre un bouton payer directement dans. Il y a un bouton payer qui existe dans les blocs Gutenberg, mais seulement pour les ceux qui payent la version premium de Jetpack. Alors je sais pas si vous avez une version premium de Jetpack ou pas du tout.
Alors moi, je suis pas en version payante non plus.
Mais j'ai... Ouais, j'ai vu que c'était un bouton payé via PayPal, non? C'est pas ça?
Ben, je sais pas par quelle fonction il passe, parce que d'un autre côté, WordPress met en place des fonctions payantes sur WordPress.com. Vous avez des fonctions boutiques qui arrivent, etc. Enfin, ou sont même en place, hein, je crois, que sur un abonnement. Et là, c'est vrai qu'il y a un bouton payé avec on peut mettre un petit prix, hein, avec même un prix variable, il me semble qu'on peut mettre. Moi, je l'ai pas testé parce que c'est vrai que la version premium de Jetpack me sert pas, donc j'utilise d'autres choses. Bon, ça sera à voir hein, ce qu'ils peuvent faire. Et on parlait tout à l'heure d'un formulaire, John. Tu parlais de la difficulté, de la facilité de mettre un formulaire dans WordPress. Jetpack arrive à toujours un éditeur de formulaire qui était pas mal foutu, mais bon, qui était simpliste hein, comparé à d'autres éditeurs. Et là aussi, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles fonctions qui avaient été ajoutées. Ce qui veut dire qu'on peut ajouter des formulaires un petit peu où on veut, hein, notamment si on veut en mettre deux sur une page d'accueil, on pourrait le mettre. Si on veut en mettre dans des pages, faire des landing pages et compagnie, on peut le faire de très facilement et c'est vraiment très pratique. Ils annoncent aussi le support de Markdown. Moi qui rédige tout en Markdown, c'est pratique. Et alors, je dois signaler qu'il y a un truc qui marche extrêmement bien dans Gutenberg et j'étais très étonné. Je fais un copier-coller de code HTML directement dans un blog Gutenberg et il me transforme ça en truc qui marche. C'est-à-dire qu'il voit que c'est du code HTML, il met les bons niveaux de titre, les gras, les italiques, tout fonctionne du premier coup. Moi sous Mac, vous savez, j'écris sous Ulysse, je fais copier au format HTML on l'a dans les éditeurs Markdown et je fais un coller et ça s'affiche tout mis en forme. C'est vraiment pour ça, je trouve que c'est vraiment bien, il y a même pas besoin de basculer dans le mode code ou quoi que ce soit, tout s'affiche du premier coup. Vous avez marqué, j'ai vu que il y avait vous avez repéré des nouveaux blocs. Comment on pourrait ajouter des nouveaux blocs dans ce Gutenberg?
Je sais pas si tu veux en parler, John, si tu as testé des choses de ton côté.
Moi, j'ai testé alors quelques plugins. Il y a des plugins qui existent, qui sont là que pour rajouter des blocs. Donc, justement, je crois qu'il y a Advanced Custom Block ou des choses comme ça. Je n'ai pas les noms exacts de ces plugins, je crois. Mais c'est vraiment des plugins qui viennent rajouter tout plein de blocs assez sympas. Moi, j'en utilise un qui permet justement... typiquement d'ajouter en bas d'un billet de blog quand on a plusieurs auteurs une signature avec sa photo, le petit encadré qui va bien, on a un blog, des accordéons ou bien des tabulations comme ça directement dans les blocs, et puis ben, je pense que de plus en plus on va voir arriver ce genre de plugin. Il va falloir, je pense, se décider sur un parce que j'ai un peu peur du nombre qui va en arriver, mais y a vraiment des choses chouettes à faire.
Ouais, complètement. Et tu parlais d'Advanced Custom Blocks, qui est le plugin qui est fait par Maxime, qui est le gars qui fait le site Capitaine WP. Ici, avec la WP5 RC1, le plugin est nouveau en partie cassé, donc il doit de nouveau mettre à jour. Mais effectivement, c'est assez chouette parce que l'idée, c'est de... Il vous propose une série de blocs, j'imagine qu'il fera du freemium, et donc il y aura une série de blocs gratuits et d'autres payants. Et les petites fonctionnalités qui sont sympas, c'est que notamment, il permet aussi de désactiver, sans devoir aller chipoter dans le fichier fonction, les blocs de Gutenberg qui vous intéresseraient pas. Donc c'est un bon moyen d'ajouter des blocs et en plus de désactiver ceux qui vous intéressent pas. Moi, j'ai testé donc BACF, en fait, évoluer de ce côté-là aussi, hein. Plutôt que de rester sur le côté par rapport à Gutenberg, il s'est intégré dedans. Et donc, de la même manière qu'avant, il vous permettait de créer les propres blocs, mais hors de Gutenberg, maintenant, ACF a trouvé une manière de directement créer vos blocs qui viennent s'insérer comme des nouveaux blocs Gutenberg. Et donc, là, vous avez toute la souplesse nécessaire et vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Simplement, actuellement, il faut encore la version pro et c'est encore en bêta, donc c'est pas encore sorti, c'est pas possible de mettre ça encore en production. Mais d'ici 1 ou 2 mois, vous pourrez faire vos propres blocs avec ACF comme vous le faisiez avant, en fait, mais directement intégré à Gutenberg. Et alors, en fait, j'ai aussi testé un troisième truc qui s'appelle BlockLab, qui est en fait un autre plugin qui est beaucoup plus simple qu'ACF et qui est inspiré par ACF. Et donc, en fait, la technique est la même. C'est-à-dire que directement dans l'administration, vous ajoutez vos propres blocs. Et après, il y a une partie où vous devez vous-même le faire dans le thème de WordPress. Donc, si vous faites un peu de développement de thème, ça vous permet d'assez facilement créer vos propres blocs sans la partie compliquée de Gutenberg, puisque c'est ça que Gutenberg amène. C'est en fait une nouvelle technique. Je sais pas si on en parle maintenant ou plus tard.
Oui, vas-y, vas-y.
Donc, en fait, je veux dire, Gutenberg, c'est quoi la grosse différence? Pourquoi est-ce que la plupart des, ben, il y a beaucoup de problèmes, en tout cas, il y a beaucoup de réactions? C'est que d'un développement qui est beaucoup basé sur du PHP, on passe sur du développement qui est beaucoup basé sur du JavaScript. Et donc, c'est une grosse différence, en fait, pour les développeurs qui n'ont pas du tout l'habitude. Et donc, c'est ça la grosse difficulté, en fait, de faire ses propres blocs Gutenberg, c'est qu'il faut être beaucoup plus calé en JavaScript pour pouvoir le faire. Et donc, c'est ça qui amène, en fait, ces différents plugins. C'est cette transition, cette passerelle entre les blocs que vous ajoutez dans l'administration et puis après les rendre visuellement dans le site. C'est une passerelle qui n'est pas du tout évidente. Voilà.
D'accord. T'avais aussi marqué, alors l'un de vous deux avait marqué Gutenblocks aussi. Je crois que je l'avoir utilisé sur des versions de test. Je sais pas, je me rappelle pas quelle fonction il ajoute, si vous voyez quelle fonction il ajoute.
C'est aussi pareil que Advanced Custom Block. Donc, c'est des blocs. Ce sont des blocs par défaut de la personne et il les met à jour. Donc, Imat, c'est quelqu'un qui est assez actif dans la communauté WordPress en France, qui organise le WordCamp Paris d'ailleurs, je pense. Mais ici, malheureusement, j'ai voulu tester tout à l'heure, mais ça ne marchait de nouveau plus. Je crois que cette RC1 de WordPress a tout cassé pour beaucoup de plugins.
D'accord. Après, alors, on l'a pas dit, il y a une fonction qui est pas mal dans Gutenberg, c'est que vous pouvez créer vos propres blocs réutilisables. Hein, par exemple, si vous avez créé un bloc, vous pouvez, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez dire que c'est un bloc réutilisable et vous pourrez l'avoir à nouveau dans d'autres contenus. C'est assez pratique. Moi, je l'utilise notamment pour des shortcodes parce que, alors, on peut être, on a un bloc shortcode qui existe dans Gutenberg. Hein, je sais pas si vous l'avez testé. Donc, on peut utiliser un shortcode, l'insérer par biais d'un bloc Gutenberg. Mais le problème, c'est que il vous liste pas les shortcodes disponibles. Il a pas une liste des shortcodes disponibles. Donc, il faut aller les retrouver. Alors, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai créé un jour je me suis créé un bloc réutilisable de ce type-là, ce qui fait que maintenant, quand je veux réutiliser le shortcode, plutôt que d'utiliser le bloc shortcode par défaut, je réutilise mon bloc qui est déjà entièrement paramétré. Pour l'instant, ça marche pas mal. Je sais pas même pas s'il pourrait pas faire une liste de tous les shortcodes disponibles, ou je sais pas, ce serait peut-être un petit peu compliqué. Et puis après, faut le dire, il y a plein de blocs, de plugins qui ont installé des blocs pour Gutenberg et qui le disent peut-être pas forcément, hein, ils s'en font peut-être pas la pub, hein, c'est comme les thèmes. Je sais que par exemple j'ai un petit plugin qui permet de mettre un texte en tweet et le tweeter facilement. Et ben l'autre jour j'ai découvert qu'il avait un bloc Gutenberg qui était présent, tout simplement. Donc je pouvais l'utiliser facilement. Et pourtant j'avais pas vu, vous voyez, il n'avait pas vraiment annoncé. Hein. Donc comme ça, des fois on a des bonnes surprises. Et puis comme vous dites, à chaque fois que il y a tellement de mises à jour et tant qu'on sera pas, je pense, hein, tant que la version définitive WordPress 5 sera pas sortie, je crois que beaucoup attendent. Avant de remettre les mains dans le cambouis sur cette partie-là, ou en tout cas de publier officiellement les versions.
Puis après, tous les gros plugins, hein, seront de toute façon de la partie. Il y a Yoast SEO aussi qui a annoncé qu'ils allaient avoir des blocs sur leur dernière mise à jour. Et puis, il y a un plugin aussi dont on n'a pas parlé, mais je ne sais pas si ouais, on va en parler maintenant, mais qui est important, qui s'appelle Classic Editor.
Oui.
Qui va venir quand même, ils annoncent une compatibilité jusqu'en 2020. C'est le plugin qui permet en fait de désactiver Gutenberg Et puis, j'entendais justement Matt Mullenweg qui disait qu'ils étaient en train aussi de le faire évoluer pour permettre à ce plugin, par la suite, de nous permettre d'activer Gutenberg que sur certains, peut-être, contributeurs ou users, et puis aussi que sur certaines pages. On aura la possibilité de désactiver Gutenberg sur certaines pages et puis de l'activer sur d'autres. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur quelques sites en test. J'ai vraiment des pages où oui, je ne veux pas avoir Gutenberg parce que ça me fait casser tout. Et puis des pages où j'en ai besoin, typiquement des pages de blog où on peut jouer avec ces blocs, faire de la mise en page facilement. Et puis des pages standards où j'ai besoin d'une rigueur et puis que je n'ai pas envie qu'on vienne mélanger mes blocs.
Est-ce que pour vous, ça va tuer les éditeurs complexes qui permettaient de faire des pages complexes avec justement des placements de blocs, hein, des éditeurs visuels. Moi, j'en utilise pas trop, mais il y a quoi, Elementor, Divi, les choses comme ça là. Est-ce que pour vous, ça va les tuer ou est-ce qu'ils vont s'adapter? Comment vous voyez les choses un petit peu?
Alors moi j'ai vu que Divi était parti pour s'adapter. En tout cas, ils annoncent leur compatibilité Gutenberg aussi. Je crois que ceux qui sont implantés, hein, type Beaver Builder ou Elementor aussi, annoncent une compatibilité. Après, moi, Divi, je l'ai par principe. Quand j'ai vraiment, je dois vite faire quelque chose, mais je ne supporte pas. Donc, moi, s'il meurt, ça ne me dérange pas.
comment est-ce qu'il fonctionne exactement? Parce que moi, de ce que j'avais vu, il venait écrire, enfin, j'avais testé notamment Elementor, mais il venait enfin, mettre un gros pavé, faire ses blocs avec Elementor et il bloquait tout le reste, en fait. Est-ce que c'est ça qu'ils vont faire ou ils vont vraiment faire leur propre bloc dans Gutenberg?
Je sais pas trop, je pense que ça. Je sais pas, ça va être un mélange des deux. Mais il y a aussi un plugin qui va être compatible Gutenberg ou qui va nous simplifier la vie, c'est bien sûr WooCommerce, où ils ont annoncé aussi des blocs Gutenberg, et ça va être assez pratique justement.
Oui, pour insérer un
Pour...
produit directement dans un article de blog, des choses comme ça là, ou des pages de vente, on va pouvoir faire des trucs
Voilà,
sympas avec ça,
les listes des derniers articles, des choses,
ouais.
catégories.
Oui, alors parce qu'on l'a pas dit d'ailleurs, mais je le dis dans mon tuto. Alors je sais pas comment, si c'est parce que j'ai Jetpack ou pas, mais il y a des blocs notamment qui listent les derniers articles de son blog, hein, tout simplement. Chose qu'avant on faisait, il fallait un plugin, un shortcode pour le faire. Ben ça, on l'a directement en inséré.
Par défaut, ça.
C'est par défaut, hein, c'est pas lié à
Ouais.
Jetpack, quoi, c'est par défaut. Il y a deux trois trucs hein, comme ça. Je crois qu'on peut lister des catégories ou des archives aussi, il me semble avoir vu des choses. Mais à force de bricoler, je sais plus ce qui est par défaut, pas par défaut. Mais je crois que ça va quand même simplifier la vie de beaucoup de gens. C'est ce que je montrais d'ailleurs dans mon tuto hein, sur la landing page. C'est que comme ce bloc même de derniers articles, on peut le paramétrer et on peut l'insérer plusieurs fois. Moi, par exemple, ce que j'avais fait, c'est que le premier article s'affichait avec le titre, une image et un texte, et qu'ensuite j'ai affiché les 9 articles suivants avec juste le titre. Chose qui, j'ai fait ça, je crois que mon tuto fait 5 minutes. Et je crois que j'ai pas mis plus de temps que ça pour comprendre qu'on pouvait le faire. Chose qui avant était quand même assez compliquée. C'est pour ça que je pense quand même que Gutenberg va finir par plaire à beaucoup de gens et même ceux qui sont un petit peu réticents au départ, parce qu'on va quand même travailler, je pense, beaucoup plus vite. Un dernier mot sur Gutenberg, où vous voyez des choses qu'on aurait oubliées, dont on n'aurait pas parlé?
Pour moi, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire.
Oui, pareil, ouais, tout à fait, oui. C'est bon
Bon.
pour moi.
D'accord. Bon, on va conclure sur finalement ce WordPress 5. Alors, on avait intitulé ça comme rubrique, faut-il passer à WordPress 5 ou attendre? Bah, la réponse est qu'il faut attendre.
De toute façon, ouais.
Aujourd'hui, en tout état de cause, il faut attendre. Alors, il n'y a que si par hasard il y aurait une surprise dans la nuit d'ici la publication, mais franchement, on semble pas parti pour, hein, sinon on l'aurait vu passer. Mais en attendant, s'il était sorti là, ou de toute façon il va sortir en janvier, on l'a dit, qu'est-ce que vous recommandez à vos clients là pour l'instant sur le passage à WordPress 5 ou pas? Est-ce que vous passez ou est-ce que vous passez pas?
Enfin, déjà, mon côté, j'ai envie de dire, eux n'y pensent même pas. En tout cas, je veux dire, la plupart des PME, je veux dire, on leur fournit WordPress, c'est un outil pour eux. Donc, WordPress 5, Gutenberg, les trois quarts n'en ont même pas entendu parler. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Et quand ils nous en parlent, ben, clairement, ben, en tout cas, notre côté, ça va être de dire, ben, on va attendre de s'assurer que d'avoir déjà testé en local une version avec tous les plugins à jour, de voir qui cohabitent bien tous. Et puis à ce moment-là, on pourra envisager une mise à jour.
Ouais, c'est tout pareil de mon côté. On va vraiment attendre qu'elle soit là, la tester vraiment vrai, puis que justement, vu tous les problèmes qu'on a avec ces release candidates, que tous les développeurs aient fini de faire leur travail pour pouvoir passer sereinement. C'est vrai que ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé de devoir hésiter à cliquer sur le bouton mise à jour sur WordPress, parce qu'il faut reconnaître que ces dernières années, c'était devenu vraiment super stable. On faisait vraiment les mises à jour, les yeux fermés. C'était extrêmement rare que quelque chose saute. Et puis là, on retombe dans des petites peurs comme ça, mais je pense que ça ne va pas durer longtemps, puis qu'on va très vite se retrouver à quelque chose de bien.
Oui, alors moi j'ai vu notamment c'est WordPress, WooCommerce, sur lequel il y a une vraie méfiance à avoir parce que le WooCommerce n'était pas encore tout à fait à jour. Alors il y a des mises à jour qui se font. Et si vous avez un WooCommerce qui est chargé avec beaucoup de plugins, de sous-plugins, j'ai envie de dire, attention parce que là je crois qu'il y aura, il peut y avoir de la casse quand même sur pas mal de choses. WooCommerce évolue très vite. De toute façon, ça appartient à Automattic, donc ils ont intérêt à le faire évoluer très vite. Surtout que c'est de la boutique en ligne avec du paiement et tout un tas de choses. Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment tester. Et je pense que ça méritera d'attendre que tous les plugins, en tout cas, aient fait leur mise à jour pour passer à WordPress 5 plus sereinement dessus, je pense.
Par contre, c'est clair que tous mes nouveaux projets seront d'office avec la dernière version.
Alors,
et puis, on construira autour des bugs.
Ouais, et en fait, si par exemple t'installes à partir de demain, là, t'as un nouveau projet, donc tu pars en WordPress 5, tu pars en Gutenberg ou finalement tu gardes le Classic Editor quand même?
Gutenberg, à fond. non, le but c'est vraiment d'être prêt, quoi, et puis pas de revenir en arrière. On a vraiment ce mouvement qui part dessus, et puis je pense que rester sur Classic Editor, c'est vraiment faire des pas en arrière qui sont pas utiles. Après, le Classic Editor, pour plein de sites, les anciens sites, je pense que je vais même pas me poser la question. Si ça leur apporte rien d'avoir Gutenberg parce qu'ils publient pas ou parce qu'ils font pas de mise à jour régulière puis qu'ils en ont pas le besoin, je vais passer en WordPress 5 puis je vais leur activer le Classic Editor pour pas qu'eux ils voient la différence mais qu'on ait le suivi technologique. Et puis pour tous les nouveaux projets, c'est sûr que ça sera du Gutenberg. Je pense que les gains sont bien supérieurs à tout ce qui peut nous freiner.
Ouais, mon côté, en fait, moi, je pense que ça va être une grosse discussion aussi. Moi, par rapport aux anciens sites, clairement, tout pareil. Hein, c'est rester en Classic Editor. Et puis, si vraiment, les clients viennent vers nous, on en discute. Maintenant, pour les nouveaux projets, je suis un peu plus réservé encore pour l'instant parce que je me dis s'ils sont ok avec le fait qu'il puisse y avoir des petites choses, des petits bugs au début, pourquoi pas. Maintenant, si j'ai des clients qui sont assez tatillons, j'hésiterai quand même à deux fois à leur proposer Gutenberg, même si comme John, je suis ultra convaincu par Gutenberg, hein, c'est clair. Mais il y a encore des petites choses. Je parlais de la galerie tout à l'heure. C'est toutes ces petites choses mises bout à bout pour des clients qui n'ont pas forcément l'habitude ou en tout cas qui veulent un truc qui marche nickel. J'attendrai encore un peu pour passer à du Gutenberg complètement, sachant en plus que le support c'est jusqu'au 31 décembre 2021. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas idéal, mais en tout cas ça pourra faire le job. Quoi.
En tout cas, alors moi je le dis, mes étudiants, j'ai mis Gutenberg sur tous les sites où je fais travailler mes étudiants dessus, comme ça, moi ils sont formés au nouveau WordPress. Et en fait, je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il n'y en avait pas tant que ça qui avaient déjà utilisé WordPress dans leur vie. Hein. On dit que les étudiants, les jeunes sont tous très connectés, mais en fait, des gamins de 22 ans, j'ai une classe, il n'y avait que 3 sur 20 qui avaient déjà utilisé WordPress. Donc moi je leur ai même pas mis Classic Editor, vous voyez, j'ai remis Gutenberg directement, et comme ça ils savent pas que ça y a eu un truc qui existait avant, et au moins ils apprendront sur une version qui est pour eux le futur. On va sauter la partie sur les conseils pour ceux qui veulent passer maintenant, hein, parce que on l'a dit, on peut pas passer tout de suite, tout simplement, mais on le répète, hein, il faudrait faire quoi ? Sauvegarde obligatoire, mise à jour de tous les plugins, vérifier que ça passe, qu'il passe pas, avoir des copies en local, etc. Comment vous faites d'ailleurs ? Allez, on va quand même le faire, une mise à jour, là, qu'elle soit majeure ou pas majeure, qu'est-ce que vous faites obligatoirement avant de faire la mise à jour ?
Alors moi, j'ai un plugin qui est installé, qui me fait des mises à jour automatiques du site. Après, ça dépend les sites que j'utilise, ça dépend la fréquence. Mais en tout cas, je sais qu'avant de faire une mise à jour de WordPress, j'ai ça. Et puis, j'ai aussi un backup qui est assez, qu'on ne se rend pas toujours compte, mais c'est l'hébergeur. Moi, j'ai mon hébergeur qui fait aussi des backups tous les jours. Si vraiment j'ai un souci et puis que mon plugin n'a pas passé, j'ai toujours moyen d'aller dans mon compte chez l'hébergeur et de faire un rollback au jour d'avant, aux environs de 4 heures du mat, où le serveur a fait un backup.
Oui, voilà, pareil. C'est vrai que les hébergeurs, on n'y pense pas assez souvent, mais c'est un bon moyen de sauver ses données. Et sinon, de toute façon, avant toute manipulation, utilisez un plugin qui vous permette d'exporter la DB sur votre disque dur ou sur votre FTP, mais les deux étant l'idéal. Et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir revenir en arrière.
Mais c'est une très bonne remarque, John, sur les backups hein, de serveurs. Moi, j'en ai une toutes les nuits, puis après j'ai les semaines, et puis j'ai les mensuels, etc. Et ça m'a sauvé un jour. J'ai perdu toutes les images de mon site, et il y en avait un bon paquet. Et tout le backup les comprenait, mais j'ai fait une petite erreur en FTP, un truc très con. J'avais supprimé le dossier, tout simplement. Et c'est vrai que ces sauvegardes-là, hein, activez-les absolument chez vos hébergeurs. Tous les proposent. Ça peut vous paraître prendre de la place, mais le jour où vous en avez besoin, vous allez voir quand même que vous allez bien apprécier cette petite sauvegarde et qui vous sauve un petit peu les choses. Et puis je le dis aussi parce que c'est une discussion que j'ai eue dans la journée. Chez plein d'hébergeurs, vous avez aussi des fonctionnalités qui vous mettent à jour les WordPress un petit peu tout seul, etc. Moi personnellement, je sais qu'avec WordPress 5, j'avais une tendance à les avoir désactivés. Hein, cette mise à jour automatique, je sais pas vous comment vous voyez les choses, mais autant jusqu'à maintenant j'ai laissé en automatique, mise à jour des WordPress, des plugins, des thèmes, etc. Là j'avais un petit peu désactivé en me disant je déciderai moi-même d'appuyer sur le bouton, ne serait-ce que pour voir ce qui se passe et pour être sûr que je suis là quand ça va se faire, parce que c'était un petit peu ma grande crainte.
De mon côté, en fait, on a désactivé cette mise à jour automatique depuis quelques années, pour justement le faire à des moments donnés, pour toujours s'assurer qu'on fait les mises à jour, tout fonctionne nickel à chaque fois, parce que voilà, il suffit que plus deux plugins ne fonctionnent plus ensemble et voilà, c'est parti. Même si c'est vrai que c'est le genre de choses qui clairement n'arrivent que très rarement. Et pour WordPress 5, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu exactement, mais clairement, ça ne passera pas à mon avis, en mise à jour automatique. Je ne suis pas sûr qu'ils le feront automatiquement. En général, pour des mises à jour majeures, je pense que pour GDPR, ici en mai, ils l'avaient fait aussi. Il avait fallu le faire manuellement. Et donc, même si le réglage automatique était activé, il fallait appuyer manuellement sur le bouton.
Ouais, pour le RGPD, il l'avait fait en deux fois. Il y a eu, si on voulait, on pouvait le faire manuellement. Et puis, une fois qu'ils ont été sûrs que tout roulait bien, ils l'ont activé en automatique, je crois, 2 semaines après.
Ouais. Oui,
Et puis,
alors.
moi, j'utilise un plugin qui s'appelle MainWP, où je gère tous mes installations. Et puis, j'ai vraiment la liste de chaque site avec quel plugin je dois mettre à jour. Et puis, c'est moi qui clique à chaque fois, qui valide le fait que je mets à jour ce plugin sur tel site.
Oui, et c'est important, hein, notamment. Et puis il y a aussi les traductions des fois qui suivent pas tout à fait, qu'il faut vérifier, etc. Voilà, il y a tout un tas de petites choses, effectivement. Alors quand on est chez soi, moi personnellement, bon, j'appuie assez volontiers sur le bouton à tout moment, hein, très clairement. Bon, pour un client, on se méfie toujours un petit peu. Surtout que moi, j'ai les sites que je gère pour d'autres personnes, c'est toutes des boutiques en ligne. Alors si je plante tout, ça se voit tout de suite sur le chiffre d'affaires. Donc je me méfie vraiment. Mais moi j'ai un avantage, c'est que j'ai pas le même boulot que vous. Moi je gère très peu de sites pour des clients, donc ça c'est très très limité. Quand j'ai une mise à jour à faire, ça se limite à 2-3 personnes, à 2-3 sites, donc je suis assez tranquille là-dessus. Bon, moi, je pense qu'on a fait un bon tour sur ce WordPress 5 qui est sorti, mais qui n'est pas sorti, hein. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. C'est un petit peu le WordPress fantôme. Effectivement, on rappelait, hein, que on avait fait un épisode combien j'ai dit? C'était le 186, John, ensemble, au mois de
Ouais,
mai,
c'est ça.
et on avait dit que Gutenberg WordPress 5 sortait 2 mois plus tard. Et donc on attendait ça pour le mois de juillet, août, hein, voilà, et la fin de l'année va arriver, donc il y a beaucoup de retard. C'est pas très étonnant parce que on rappelle quand même que WordPress fait tourner 30% des sites au monde. Alors je sais pas comment la stat est calculée, hein, effectivement, mais il y a quand même une grosse responsabilité sur les équipes, sur les développeurs de ces de WordPress. J'imagine pas s'ils avaient fait une mise à jour avec un gros bug dedans, qu'est-ce qui serait passé et l'image qu'ils auraient eue. Là-dessus, à quelques jours des fêtes de fin d'année, je pense que à gérer c'était vraiment le bordel. Donc je comprends aussi qu'ils aient préféré faire de cette manière-là comme ça. Vous avez un petit truc à rajouter sur WordPress, WordPress 5 ou WordPress en général ou
Moi, je peux juste rajouter que si vous avez des doutes, il faut aller voir sur le site de Matt Mullenweg. Qui est le fondateur de WordPress et puis la dernière vidéo qu'il a mise, c'est une FAQ qu'il a fait à Portland pendant les WordCamp où les gens lui posent des questions et quand on voit la personne qui est derrière, moi je pense qu'on reste convaincu de ce que WordPress va être dans les années futures et puis lui comme il défend sa vision de Gutenberg, c'est vraiment motivant et puis c'est inspirant, je dirais.
Ouais, c'est ça, on sent qu'il a investi, enfin il a une vraie vision depuis le début, hein. Ça fait plus de 2 ans qu'il parle de Gutenberg et on sent qu'il le vit dans toutes ses réactions et voilà, effectivement c'est super boostant, ouais.
Oui, alors il a toujours un site, c'est intéressant. Alors ça fait longtemps que je suis pas allé le voir d'ailleurs. Je sais pas à quoi il ressemble maintenant. J'essaie d'aller voir, mais
à l'œil comme ça, c'est le 2019.
Ouais. Il a toujours des fonctionnalités qui sont un petit peu. Il utilisait des fonctionnalités que pas grand monde utilisait. À un moment, j'avais remarqué notamment, vous savez, les types de contenus là, je sais même plus comment je les appelle. Moi, je les utilise en plus, le pire. Vous savez, les statuts, les choses comme ça là. Lui, il les utilisait avec une mise en forme, etc. On voyait ce qu'on était capable de faire. Même si vraiment il y a du développement qui est un petit peu spécifique hein, dans ce qu'il fait, mais c'est intéressant de le suivre effectivement. Et puis c'est un gars aussi pour ceux qui s'intéressent à la productivité qui est assez pointu hein, là-dessus sur ses méthodes de développement, etc. C'est assez intéressant de regarder ce qu'il fait parce qu'il travaille vraiment. Je pense qu'il est pas câblé comme moi en fait en tout cas. je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Voilà, bon moi je pense qu'on a fait un bon tour. Je vous remercie pour votre présence, messieurs. C'était un super chouette moment. On a fait un sacré tour. Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour suivre un petit peu toutes vos actus, toutes vos publications, tout ce que vous faites?
Alors, pour ma part, vous pouvez me retrouver sur le site que j'essaye d'animer, wp2.ch, pour WordPress Work in Progress. Où j'essaye de faire des tutos justement un peu plus techniques. C'est entre le gros tuto technique et puis le tuto pour les débutants. Et puis, je suis en train de mettre aussi justement un streetcast où je fais des news WordPress. J'essaie d'en faire une par semaine justement pour suivre un peu toute cette actualité Gutenberg qui s'appelle WP2 Actualité qu'on retrouve sur Encore et sur les autres chaînes de podcast.
Voilà, et moi, vous pouvez me suivre sur thomasdubois.net où je recense les différents réseaux sociaux où on peut échanger et puis les quelques projets. Pour l'instant, pas encore assez de projets outre l'agence où je bosse, mais voilà, il y a sûrement des projets en 2019 sur WordPress qui vont arriver aussi. Donc, vous pouvez aller faire un tour.
Très bien, et alors j'en profite parce que vous l'avez mis dans les notes de l'émission, l'adresse de Matt Mullenweg, je la rappelle, c'est ma.tt, hein, moi elle me fait rêver hein, cette adresse, l'adresse la plus courte qu'on puisse avoir, franchement elle me fait rêver parce que autant à une époque je voulais un bertrand.blog, et alors vous savez WordPress je suis un peu en colère contre eux parce que c'est eux qui détiennent le .blog comme en extension, blog. Et ils ont une tarification des certains domaines, notamment tous les prénoms, en premium. Ça le fait quand même à une bagatelle de 200€ ou 300€ par année, un truc dans ce genre-là. J'étais un petit peu colère contre eux sur ce coup-là, mais là par contre je suis jaloux moi de son extension, le mat, ma.tt, c'est vraiment, je trouve, juste super cool, en fait, voilà. Difficile de faire plus court que ça. Bon, je vous remercie encore une fois, messieurs, pour tous vos apports, tous vos conseils. On a tous les liens, donc, pour vous suivre. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, peut-être que d'ici janvier, on reparlera de WordPress 5, parce que probablement, il sera sorti. Et on aura encore probablement des nouveautés. Merci à vous deux, merci à tous pour l'écoute et à très bientôt. Ciao, ciao.
Merci, ciao.
Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.